Ce programme, une initiative de Sousa Manifeste, vous est proposé par la Fondation MAM et de Muntu Institute Foundation.
Se séparer en pays Bangkon, une présentation de Parfait Akana.
Au début de la décennie 80, Jean-Pierre Rioum faisait partie des artistes musiciens qui donnaient de la couleur aux musiques du littoral camerounais. C'était l'époque bénie du tout-puissant Makossa et son titre, Gona Souza, fit sa fortune artistique. Un morceau dans lequel il épinglait une fille de Souza portée sur l'argent et qui, par ce défaut, avait provoqué la fin d'une union sur laquelle son conjoint fondait beaucoup d'espoir. Avec cette histoire qui fit danser et méditer, Eyoum posait l'une des principales raisons de la séparation des couples. À Grand Souza, bourgade est située à 3 km de la nationale numéro 5 qui relie Douala en Consamba. Au lieu dit Souza, il arrivait effectivement que des mariages bien ficelés volent en éclats. Et à l'échelle des causes de ces séparations, l'adultère. Martin Gangmengou, officier d'état civil de Seyan, s'en souvient.
Là alors, l'adultère, c'était très interdit. Ça veut dire que j'ai ma femme, tu viens, tu la couches, tout le monde sait. Le chef du village vous donne des conseils. Ça continue, tu continues à suivre ma femme, je la laisse, on se sépare. Et il y avait bien, à cette époque-là, beaucoup d'adultères, mais les gens étaient trop surnois. Parce qu'ils faisaient tout dans des brousses. C'est pas maintenant, tu prends la fille à autrui, tu amènes dans les circuits, dans les hôtels et tout.
Sitananga, octogénaire né et établi à Grand Souza, il va aussi de son grain de sel, le visage fermé. Sa fille traduit ses propos à ce sujet.
La première raison, c'était l'adultère. Si la femme sait que son mari a une femme ailleurs, elle va vers cette femme-là faire des problèmes. L'homme peut se fâcher, il la renvoie chez elle. Et vice-versa, si c'est la femme qui commet l'adultère, l'homme attrape, il tape comme il veut. Après, il dit, allez, rentre chez vous. Je n'ai pas venu me commander ici.
Dans l'autre sens aussi, il arrivait que les mariés se séparent à la suite de l'infidélité du mari. Infidélité associée à des actes de violence et de négligence répétés. Ici aussi, comme dans l'ensemble du pays, persiste une étrange mansuétude déguisée en traits culturels de ce dont une femme est capable de faire l'épreuve pour prouver son attachement à son foyer. De nombreuses enquêtes sociologiques, de démographie et de santé révèlent justement ce régime de tolérance dont jouissent les bourreaux de la part des victimes de violences conjugales. En 2009, une enquête révèle que 56% des femmes camerounaises pensent qu'un homme a le droit de battre sa femme si elle manque à son devoir de maternage. 45% lorsqu'elle sort sans autorisation, 34% lorsqu'elle discute son opinion et 20% lorsqu'elle refuse d'avoir un rapport sexuel avec lui. Toutes ces données constituent une illustration des troubles de la conjugalité et la réalité d'une violence consentie par les victimes des brutalités conjugales. Le propos de Mme Epossi, native d'un Kakegar, apporte une indication supplémentaire. Elle pense en effet qu'on peut supporter la violence des bourreaux jusqu'à un certain point, dans l'espoir que ceci change.
Tu avais ton mari t'abandonne, il t'abandonne à la maison, il part dormir. Toi, tu peux supporter, tu peux même supporter à un certain temps comme ça là. Mais si c'est qu'il n'est pas changé, il continue seulement le comportement là, de te laisser aller dormir ailleurs. Tu quittes, c'est pas obligé que c'est ta vie là-bas. Et lui, il part jouer dehors, il te laisse comme une gardienne là, c'est ta vie dans sa maison. Si tu veux mourir, tu ne mets pas. Mais l'homme là même peut supporter que tu as une femme chaque jour. Ta femme sort seulement, elle rentre seulement la nuit. Il te laisse à la maison. Toi, tu peux rester avec la femme là.
En écoutant les riverains de ces villages, il est une cause sur laquelle ils rechignent à revenir. Il s'agit de la sorcellerie avec ses pratiques maléfiques, autant du côté du mari que de la femme. Elle apparaît comme l'une des principales raisons de séparation et constitue une variante des économies occultes qui, de manière générale, suppose le déploiement de ressources magiques en vue de l'acquisition sur un mode transgressif et violent de gains matériels et symboliques. À Makemba, il se raconte que certains parents, avant d'envoyer leur progéniture en mariage, gâtaient leur ventre, selon une expression locale, afin que celle-ci ne puisse pas procréer. Ainsi, en provoquant, au dire des habitants de Makemba, la stérilité de leur enfant, ils créaient des sources de conflits au sein de leur foyer, sources qui étaient alors capitalisées en ressources pour les instigateurs. Tel est le sens véritable des économies occultes, ici comme ailleurs. Il se résume en un mot, le malheur est une opportunité. Toujours au chapitre des séparations, la pauvreté matérielle et financière était un vrai problème pour les mariés. Au même titre sans doute que la différence d'âge qu'il pouvait souvent y avoir entre les époux. Thomas Kemé, 46 ans, explique.
Les mariages de l'époque n'avaient pas les mêmes âges. L'homme pouvait dépasser la femme à plus de 30 ans. La fille a 16 ans, elle a un monsieur de 46 ans comme moi. Du coup, à 70 ans, quand la femme aura 30 ans ou 35 ans, toi, tu seras allé à 80. Et du coup, tu n'as plus toutes tes performances. Et une jeune fille de 35 ans ne peut pas rester comme ça. Maintenant, elle va commettre l'adultère et que toi, tu ne peux pas supporter. Et ça va vous séparer. Pour être libre, elle va quitter le mariage, non? Pour aller ailleurs, faire ses trucs. Parce que toi, tu es déjà vu, tu ne peux plus.
D'autres situations particulières pouvaient aussi être à l'origine des séparations à Makemba. Notamment les manquements graves aux us et coutumes du terroir, tels que l'obligation pour l'époux d'acheter un cercueil pour son beau-frère décédé ou pour son beau-père. Cette coutume du terroir Bankon, on la retrouve aussi dans l'ouest voisin où les beaux-fils ou beaux-frères sont tenus de contribuer significativement aux charges funéraires de manière générale et plus précisément à l'achat du cercueil. Leur défaillance pouvant entraîner parfois un bannissement du site des obsèques ou le retour de la femme dans sa famille à l'issue des cérémonies funéraires. Le patriarche Koum Ewane nous le rappelle.
La femme perd son frère, Tu n'as pas acheté le secret.
Tu n'as pas possibilité d'acheter le secret. La femme de mère, après le deuil, après l'enterrement, la femme de mère à la famille. Hein, tu vois, pour aller la récupérer, c'est pas facile. Hein. Tout ça, c'est que tu payes le secret, là, tu achètes.
Le retour de la femme dans sa famille, pour cause de manquement aux obligations coutumières de son mari, était un acte de protestation exprimant un désir de justice, des réparations conséquentes et à la hauteur du préjudice subi par la femme, s'estimant bafouée dans son honneur. Mais cet honneur bafoué était aussi celui du mari, coupable de manquer d'amour propre par sa défaillance vis-à-vis de ses obligations coutumières. Il faut en effet reconnaître ici, comme l'indique le philosophe Kwame Anthony Appiah, les rapports entre honneur et respect. Respect de ses engagements, c'est-à-dire aussi respect de soi et de notre insertion anthropologique dans une communauté. Cette reconnaissance chez les Bankom est par exemple le principal motif du travail de reconquête que celui qui a déshonoré sa femme engage. En ouvrant une phase de négociation, c'est-à-dire aussi en avouant sa faute et en demandant le pardon. Cette phase durait le temps des échanges entre les protagonistes et les négociateurs. Les pourparlers engagés pouvaient rapidement déboucher sur une conclusion ou prendre plus de temps en fonction de la gravité de la situation examinée. Le notable Ewan Enke explique.
À cette époque-là, votre femme sait que X est le mari intime qui venait souvent à la maison, qui s'entendait et avec son mari et avec elle. C'est à celui-là que le mari dit, va me tracer la route là-bas, va mettre les balises. Dis-lui que je suis prêt pour remédier à cette question. Si elle est compréhensible, elle va dire à ses parents que mon mari reconnaît la faute. Bientôt, il va revenir pour régler le problème. Et la famille va dire, bon, on l'attend, envoie la nouvelle par l'émissaire. L'émissaire viendra rendre compte.
Dans les cas de répudiation, l'épouse et conduite avaient droit à une seconde chance. Madame Eposi Dunkakegar précise même que la femme et conduite pouvait se remarier plusieurs fois si elle en avait l'occasion, même si elle avait déjà jeté le déshonneur sur sa famille.
Oui, si tu as la chance, même si tu es chez vos parents, le mariage est fini. Tu peux avoir encore un mari qui peut t'épouser. Tu peux avoir encore un mari qui peut
t'épouser. Et en ce moment, on va encore faire la dot et tout.
Oui, mais oui, pourquoi pas passer l'argent de l'autre qu'on a mangé. On a mangé pour toi.
Donc, chez vous, vous dotez les femmes plusieurs fois.
C'est-à-dire, la femme, là, on te donne pour rien. Hein.
Mais puisqu'on c'est a bien
c'est l'autre,
et vous n'avez pas remboursé l'autre.
L'autre, là, il nous a donné, on a mangé.
Oui.
C'est sa part là-bas.
Oui.
Et toi aussi, tu es venu pour se présenter. On doit te donner comme le mariage est cassé là-bas. C'est l'argent de l'homme là qui doit te coiffer et on te donne la femme là pour rien parce qu'on a mangé. Ça, elle a la chance, hein. Elle peut m'envoyer partir même toi, mariage. Mais il y a les autres femmes, quand tu parles là-bas, si tu accouches, tu laisses les enfants.
Chez les Bankom, comme dans l'ensemble du terroir Sawa, la séparation Bouadiba, qui signifie casser le mariage, bien que reconnue et encadrée, était considérée comme une déviation et se prévenait, entre autres, par la divination qui visait à identifier des foyers de troubles et à les éliminer ou à les contenir. Martin Gengmengu raconte.
Les gens étaient très véridiques. Quand je voyais, moi je suis voyant par exemple, je vois quelque chose qui ne va pas dans ta famille, je vais vers ton chef de famille pour lui dire que comme tu vois là, il y a un phénomène qui veut déjà entrer dans ta famille, méfie-toi. Ils font donc des petites pratiques pour éviter cela. On appelait ça à l'époque là le tapet. Tapet, c'est-à-dire que quand ça ne te prenait pas, les gens te tombent, mais tu ne les vois pas.
Aussi, les uns et les autres n'hésitaient pas à recourir à des stratagèmes, parfois relevant du domaine de l'occulte, pour sauvegarder leurs relations. L'alimentation jouait alors ici un rôle important. À Souza, comme dans d'autres localités du pays, il se raconte que certaines recettes culinaires aident à rendre le mari fou de sa femme, une sorte de filtre. C'est le cas par exemple de recettes à base d'escargot. De même, les hommes eux aussi n'hésitent pas à recourir à des procédés originaux, en l'occurrence magiques mobilisant le sang, le sexe ou la salive, comme moyen efficace de transmission pour conserver leur conjointe. Le patriarche Koum Ewane et le notable Ewanenke rapportent.
Il dit, la femme, si je ne voudrais pas la partager avec quelqu'un d'autre, tu restes là avec moi. Tu vas voir mes cheveux blancs. Je vais aussi voir tes cheveux blancs. On est ensemble, on travaille ensemble. La femme ne peut plus sortir de ce foyer-là. Elle va rester avec son homme pour le meilleur et pour le pire.
Aujourd'hui, le contexte camerounais qui est au départ celui d'un pluralisme juridique hérité de la période coloniale affirme de plus en plus une préférence, principalement dans des affaires de droit coutumier, pour le droit écrit. Les deux droits pouvant parfois être opérants dans la même affaire, comme dans des cas de divorce. Ici, la Cour suprême, dans son bulletin numéro 8 du 5 mars 1963, pose alors la suprématie du droit écrit sur le droit coutumier, en affirmant dans l'un de ses arrêts que, dans des matières où il a été légiféré, la loi l'emporte sur la coutume. Par-delà les nombreuses ambiguïtés postérieures à cet arrêt de la Cour suprême sur la suprématie du droit écrit sur le droit coutumier, observable notamment dans l'ordonnance du 29 juin 1981 relative à l'organisation de l'état civil, ce qu'il importe de retenir, c'est la réification par le législateur d'art de fer, de technologie normative enracinée dans un terroir. Le pays Bankon, comme d'autres localités du Cameroun, est de ce point de vue l'une des nombreuses victimes de la difficile désaliénation du législateur.
Ce programme, une initiative de Souza Manifeste, vous est proposé par la Fondation MAM et de Muntu Institute Foundation.